recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940.
Pendant trois jours, presque toute la contrée d'alentour vint sur le bord de la mer pour s'embarquer en grand nombre. En arrivant, j'apprenais que mes parentes avaient toutes changé de religion. Devant tant de renonciations, je devins tout fiel, aussi amer, aussi jaune que si on l'avait pris hors de la vessie d'un bœuf. J'étais abattu et terriblement chagrin. J'ai passé dans ce cruel état depuis le mois de juin 1685 jusqu'à ce que je parte en novembre de la même année.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent, ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. L'affreux exil auquel sont contraints en foule les Syriens du fait des malheurs de leur patrie, les drames qui marquent leur chemin, la grande diversité des accueils qui leur sont faits parmi les nations où ils cherchent un asile, cet exil contemporain incite à rechercher des précédents. Nous nous étions attachés, voici peu, à l'histoire éclairante des Allemands de l'Est rejetés vers l'Ouest après la dernière guerre mondiale. Ce matin, c'est à la transplantation des Huguenots français jetés sur les routes, en conséquence surtout de ce crime que fut la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV en 1685, que cette émission sera consacrée. L'édit de Nantes, par quoi Henri IV avait imposé la tolérance au début de ce même XVIIe siècle. Cet exil, l'histoire le désigne comme le refuge protestant, refuge avec un grand R. Naïma Germani, maître de conférence à l'université de Grenoble-Alpes, membre de l'Institut universitaire de France, travaille avec beaucoup de finesse et de pertinence sur ce grand sujet. Avec elle, nous allons considérer les circonstances des départs, les difficultés de la route, la diversité grande des comportements des pays d'accueil, la différence entre l'intégration et l'assimilation, les dimensions religieuses, économiques, culturelles et langagières de ces déplacements de population, pour reprendre l'euphémisme ironique de George Orwell, et aussi les conséquences profondes qui en ont découlé du côté du droit international, de ses exigences neuves et de ses contradictions avérées.
On mit chez mon père à discrétion 22 exécrables dragons. Mais je ne sais par quelle politique, le duc fit conduire mon père en prison à Périgueux. On se saisit de deux de mes frères et de ma sœur qui n'étaient que des enfants et on les mit dans un couvent. J'eus le bonheur de me sauver de la maison si bien que ma pauvre mère se vit seule de sa famille au milieu de ces 22 scélérats qui lui firent souffrir des tourments horribles. Et après avoir consumé et détruit tout ce qu'il y avait dans la maison, ne laissant que les quatre murailles, ils traînèrent ma désolée mère chez le duc de la Force, qui la contraignit par les traitements indignes qu'il lui fit, accompagnés d'horribles menaces, de signer son formulaire. Cette pauvre femme, pleurant abondamment et protestant contre ce qu'on lui faisait faire, voulut encore que sa main accompagnât les lamentables protestations de sa bouche. Car le duc, lui ayant présenté le formulaire d'abjuration pour le signer, elle y écrivit son nom au bas duquel elle ajouta ces mots « La Force ». Me le fait faire, faisant sans doute allusion au nom du duc. On l'a voulu contraindre d'effacer ces mots, mais elle n'en voulut constamment rien faire.
Naïma Germani, bonjour.
Bonjour.
Je vous ai proposé un extrait des mémoires d'un galérien du Roi Soleil, Jean Marteil, lu ici par Jean-Marie Fertet dans Les Inconnus de l'Histoire sur France Culture, le 2 septembre 1983. C'est au centre de la douleur subi par les protestants de France au moment de la révocation que j'ai voulu d'emblée vous conduire. Vous la ressentez ici ?
Oui, c'est un texte magnifique et très intéressant parce qu'il arrive à résumer d'une part ce qui se passe Avant la révocation de l'édit de Nantes, toute cette phase de dragonnade, c'est-à-dire les premières persécutions longues, excessives, qui précèdent la révocation et qui consistent véritablement à pousser les protestants à sortir de leur confession. Donc l'idée globale de Louis XIV et de son entourage est d'arriver à un royaume uniformément catholique, et donc soit de faire sortir ou alors de pousser à la conversion les huguenots du royaume, qui sont à peu près 800 000, 900 000, on n'a pas de chiffre exact.
Mais c'est après plusieurs décennies qui ont suivi l'édit de Nantes, ce magnifique texte de tolérance, comment est-ce qu'on peut définir l'intervalle de temps? Tout n'a pas été rose pour autant pour les protestants entre l'édit de Nantes et sa révocation.
Non, en fait, on a une longue période de réduction progressive des droits des huguenots pendant tout ce XVIIe siècle, surtout à partir du règne de Louis XIV, même un peu avant. Et finalement, la révocation de l'édit de Nantes n'est que l'aboutissement de cette politique, puisque Louis XIV a les moyens de mettre en œuvre cette politique conversion forcée, d'uniformisation religieuse. Il possède une armée de 300 000 hommes, et c'est exactement ce que l'on entend dans le texte. Ce sont des troupes qui ne sont pas encore occupées à la guerre, ce qui est assez rare chez Louis XIV, mais enfin, quand les troupes ne sont pas occupées à la guerre, elles sont envoyées dans des familles, et de préférence chez les récalcitrants, comme on les appelle, donc des protestants qui tiennent à leur foi, et ces troupes sèment la terreur, le chaos, jusqu'à ce que, épuisées, terrifiées, les familles se convertissent ou s'enfuient.
Les barbaries sont à peine moindres que celles qu'on a connues pendant les guerres de religion au XVIe siècle.
Oui, moindre quand même, parce qu'on n'a pas véritablement de massacre, mais on a une sorte de harcèlement, on a de toute évidence, donc des pillages, c'est évident, on l'entend dans ce document, probablement des viols, des violences. Donc on a effectivement une forme de harcèlement qui est exercée sur ces huguenots. Pendant ces années 1680, par exemple dans le Poitou, Marillac se vante d'avoir, grâce à ses dragonnades, donc Marillac, intendant du Poitou, autour de 1681, prétend avoir réussi à obtenir 30 000 abjurations grâce à ses méthodes.
Comment expliquer, quelle est la conjoncture qui permet à Louis XIV de prendre cette décision qui rétrospectivement apparaît funeste? Quelle est la conjoncture interne à la France et internationale?
Il y a plusieurs éléments. D'une part, il y a la conviction de Louis XIV qu'il faut une foi, un royaume, une loi, et donc une idée d'uniformité religieuse, mais qui n'est pas propre à Louis XIV. C'est une idée très européenne. On est dans, globalement, hormis dans quelques pays, on le verra, dans une Europe de l'intolérance.
Que jus regio et jus religio.
Exactement. Qui finalement pourrait s'appliquer à la France, et qui s'applique à la France. C'est-à-dire à un prince, une foi. L'idée de pluralité religieuse est conçue comme source de conflits, source de sédition, et qu'il faut absolument retrouver une église uniformément catholique.
Avec une influence de son entourage, chancelier Le Tellier, peut-être Madame de Maintenon, qui était la petite-fille d'Agrippa d'Aubigné, le célèbre poète historien protestant des guerres de religion.
Oui, mais qui grandit dans un milieu catholique et qui devient le modèle exemplaire du catholicisme rigoureux. Alors, Madame de Maintenon aurait eu cette influence, mais cette influence apparemment est plutôt modérée aujourd'hui par les historiens. Non, on pense plutôt effectivement à un entourage politique, à Bossuet.
Les jésuites.
Les jésuites. Mais surtout Bossuet, qui est quand même quelqu'un qui promeut cette église uniforme. Et on est surtout dans un contexte de promotion du gallicanisme, un gallicanisme fort, presque agressif. Et donc, Louis XIV a les moyens de mettre en œuvre cette politique-là, à ce moment-là.
Plus une conjoncture internationale qui lui apparaît favorable, un roi catholique Jacques II à Londres,
oui.
La trêve avec l'Espagne, il n'y a pas de risque de ce côté-là.
Oui, tout à fait.
Et les Turcs sont en déclin devant l'Autriche-Hongrie.
Oui, tout à fait. Donc ces circonstances lui permettent effectivement de mettre en œuvre sans difficulté ce programme, oui.
Je vais vous faire entendre une brève chanson qui remonte à ce moment-là et qui pose la question de la sincérité des conversions que le roi obtient pour un certain nombre, d'autres refusant et s'enfuyant hors de France. la révocation de l'édit de Nantes par Louis-Jacques Rondeleux, 1685.
Calvin, outrie des arrêts qu'on publie, l'alarme à l'œil a dit à Lucifer. Ah, c'en est fait, ma secte est convertie. Il faut songer à rétrécir l'enfer. Il ne faut pas que cela vous chagrine, dit Lucifer, cet habile démon. Le mal n'est pas si grand qu'on imagine, car tous ces gens n'ont changé que de nom.
Oui, alors cette chanson est très amusante parce qu'elle prétend que l'enfer accueillera moins de monde puisqu'il y a moins de protestants, mais qu'en vérité, il n'en est rien puisque c'est ces protestants qui ont abjuré contre leur propre volonté, hein, comme on l'a vu dans le document précédent où cette femme signe comme un acte de résistance qu'elle a été obligée d'abjurer par la force. Certains sont abjure, certes, mais continue probablement à maintenir, à entretenir leur foi de manière secrète et donc pratique d'une certaine manière une forme de ce qu'on appelle le nicodémisme, hein, c'est-à-dire d'avoir une foi extérieure et en privé, hein, d'avoir une autre foi. Donc il y a effectivement, alors c'est une pratique qui est fortement réprouvée d'ailleurs par toutes les églises, mais qui forcément est impliquée par cette politique d'abjuration, puisque certains abjurent pour un temps, le temps peut-être d'organiser le départ, ou alors pour essayer d'avoir une paix relative dans leur ville ou dans leur quartier, et pour pouvoir tout simplement survivre.
Nicodémite, oui, c'est une allusion, comme chacun sait, à ce pharisien qu'on rencontre dans l'évangile de Jean, ce pharisien qui va voir Jésus-Christ la nuit, en n'osant pas être franc le jour, pour dire qu'il sait qu'il est un docteur venu de Dieu. C'est un membre du Sanhédrin. Et pour Calvin, c'est un très mauvais comportement de se cacher le jour, de se convertir apparemment, et de garder sa foi pour la nuit.
Oui, Calvin est absolument contre ce genre de pratique. Il préfère effectivement préconiser la fuite ou le martyr, comme on voudra. Mais en tout cas, il récuse absolument le nicodémisme, comme Luther d'ailleurs.
Oui, l'illusion néanmoins que les conversions peuvent être sincères atteint les plus hauts sommets de l'État. Vous évoquiez Bossuet quand il prononce l'oraison funèbre de Michel Letellier, qui était un grand acteur de la révocation. Mmh. Il dit ceci: lorsque le sage chancelier reçut l'ordre de dresser ce pieux édit, c'est l'édit de Fontainebleau, l'édit de révocation, qui donne le dernier coup à l'hérésie, il avait déjà ressenti l'atteinte de la maladie dont il est mort. Mais un ministre si zélé pour la justice ne devait pas mourir avec le regret de ne pas l'avoir rendu à tous ceux dont les affaires étaient préparées. Malgré cette fatale faiblesse qu'il commençait de sentir, il écouta, il jugea et il goûta le repos d'un homme heureusement dégagé, à qui ni l'Église, ni le monde, ni son prince, ni sa patrie, ni les particuliers, ni le public n'avait plus rien à demander. Plus rien à demander puisqu'il a révoqué, il a fait révoquer l'édit de Nantes. Seulement Dieu lui réservait l'accomplissement du grand ouvrage de la religion. Et il dit, en scellant la révocation du fameux édit de Nantes, qu'après ce triomphe de la foi et un si beau monument de la piété du roi, il ne se souciait plus de finir ses jours. C'est la dernière parole qu'il ait prononcée dans la fonction de sa charge, parole digne de couronner un si glorieux ministère. Avec le recul, Naïma Germani, cela paraît bien aventuré.
Oui, parce que c'est un acte qui choque, hein, globalement une partie de l'Europe, cette révocation de l'édit de Nantes. Dans le texte de la révocation de l'édit de Nantes, on prétend que ces conversions se feront par la douceur et la persuasion, et bien sûr on passe sous silence toutes les violences, hein, qui sont exercées sur les protestants. Donc il y a là une forme de rhétorique aussi politique autour de la révocation qui croit aussi, je pense, qu'en pliant les corps, ça c'est une idée assez jésuite, en pliant les corps, ma foi, les convictions et les croyances s'ancreront dans les âmes.
Alors que la fuite, le départ, l'exil apparaissent imposés à un certain nombre de protestants qui aiment à citer Matthieu, Matthieu 10, 23, « Quand ils vous persécuteront dans une ville, fuyez dans une autre.
Oui, très vite, beaucoup de protestants. Les chiffres sont un petit peu aléatoires. 150 000, 200 000 protestants français décident de s'enfuir parce que ils n'ont pas de véritable choix. D'abord, ils ne doivent pas s'enfuir. Ils n'ont pas la permission de partir.
Depuis longtemps, d'ailleurs.
Depuis longtemps. Depuis 1669, un édit du roi de France a interdit aux protestants de quitter le territoire. Cette interdiction est renouvelée par l'édit de Fontainebleau. Et donc, les protestants n'ont de choix que la conversion ou l'arrestation, comme on le sait, le cachot, les galères. Seuls les pasteurs ont le droit de partir dans les 15 jours. Ce sont les seuls à avoir ce droit d'émigration. Les autres n'en ont pas. Donc la fuite est un choix, mais c'est un choix clandestin qui oblige à la clandestinité et qui doit s'organiser de manière assez précise, même si pour certains, la fuite est tout à fait précipitée. Elle suit tout de suite les dragonnades. De nombreux récits de familles qui, persécutées par les armées du roi, décident de prendre quelques affaires et de s'en aller d'abord dans un voisinage proche et puis ensuite à l'étranger.
Aussi démunis que nos Syriens d'aujourd'hui. Je voudrais que vous vous attardiez un instant, Naïma Germani, sur deux affiches que vous avez observées à la station centrale de Berlin, Stadtmitte, tout récemment, et qui organisent exactement le dialogue entre ce qui fut avec les protestants et ce qui est avec les Syriens. Dites-nous ça.
Oui, ce sont deux affiches que j'ai vues donc dans cette station de métro, qui est la station tout près des opéras, de deux grands opéras de Berlin. Et ce sont des publicités pour deux grands opéras, Les Huguenots de Meyerbeer et le second, le Vaisseau fantôme ou le Holland des volants, selon la traduction de Richard Wagner, qui ont été deux grands opéras du milieu du 19e siècle.
1836 et 1843.
Tout à fait. Et donc... pour promouvoir ces opéras, les publicitaires ont choisi deux photos en gros plan montrant des visages douloureux d'un homme et d'une femme assez âgés que l'on peut identifier, reconnaître comme étant des réfugiés probablement syriens. Et ces deux affiches sont très très frappantes parce qu'elles disent au fond les nouveaux Huguenots sont les Syriens ou les Syriens sont les nouveaux Huguenots du 21e siècle. Et nous les Allemands, nous devons accueillir ces réfugiés syriens, comme nos ancêtres, ont accueilli les Huguenots français. Donc il y a véritablement une résonance qui frappe les esprits, qui pour les Berlinois dit quelque chose, hein, ce rapprochement entre Huguenots et Syriens.
Coïncidence, en somme, entre les persécutions religieuses du XVIIe siècle et le droit d'asile actuel.
Oui, une coïncidence tout à fait frappante. Les affiches ont le mérite, je trouve, de mettre en valeur ce phénomène qui est assez peu observé par les historiens, si ce n'est les historiens du droit, à savoir l'émergence du droit d'asile et l'afflux massif des réfugiés, alors huguenots, mais aussi protestants de toute l'Europe, en Allemagne en l'occurrence, mais aussi en Suisse.
Combien de protestants ont-ils quitté la France à la suite de la révocation de l'édit de Nantes?
Alors on dit 100 000, 150 000, 200 000 chez certains historiens. Les chiffres sont assez difficiles à évaluer parce que il y a évidemment des registres, mais ces registres sont incertains. Ce sont des populations qui ne restent pas, elles passent dans les pays pour repartir encore ailleurs. Elles vivent une errance, comme certains Syriens d'ailleurs d'aujourd'hui vivent une errance entre plusieurs pays. Et donc, il y a une difficulté, puisqu'on n'a pas les moyens que nous avons aujourd'hui, et encore aujourd'hui, je crois que c'est assez difficile à évaluer. Il est très difficile de savoir le nombre exact d'Huguenots partis de France et arrivés dans les pays refuges d'Europe.
Je vais vous faire entendre, Naïma Germani, un autre témoignage qui est digne d'intérêt pour nous, parce qu'il évoque à la fois les conditions de la persécution, la nature du départ et l'accueil. Cette fois-ci, c'est en Grande-Bretagne. L'accueil, comme vous allez le voir, est un accueil heureux. Ce n'est pas toujours le cas à l'époque et ce n'est pas toujours le cas pour ce qui concerne les Syriens. C'est un extrait des mémoires d'une famille huguenote victime de la révocation de l'édit de Nantes, lu par Mohamed Rouhabi. Le personnage s'appelle Jacques Fontaine et l'émission était sur France Culture le 6 août 2016.
Enfin, le grand persécuteur Louis XIV ayant cassé et révoqué l'édit de Nantes, le mois d'octobre 1685, je vis alors qu'il fallait périr ou sortir. Je m'en fus à Marennes, où je trouvai un maître anglais qui accorda de m'emmener en Angleterre avec 50 ou 60 autres personnes, moyennant 10 pistoles chacun. Le lieu d'embarquement devait être à La Tremblade, où nous vînmes loger chez le pilote du vaisseau, un ivrogne qui, par son imprudence, nous fit courir 1000 dangers d'être découverts. On fouillait alors toutes les maisons, et il y avait 1000 écus d'amende à qui recelait un protestant. Nous nous cachâmes le mieux que nous pûmes, l'un ici, l'autre là, et nous passâmes ainsi 4 ou 5 jours. Dieu eut pitié de nous et ferma les yeux de nos ennemis. Le 29 novembre 1685, le pilote nous donna avis qu'il était prêt pour partir et nous ordonna d'aller l'attendre sur les sables de Mudolon, car il prétendait passer entre l'île d'Oléron et la terre ferme, et là, nous prendre sur son bateau. À la faveur de la nuit, nous nous embarquâmes dans une petite chaloupe ouverte. Nous passâmes le courant d'Oléron, sans être aperçus, puis nous allâmes mouiller sous l'île d'Aix à la pointe du jour, et nous attendîmes que notre vaisseau parût. Sur les 10 heures du matin, nous aperçûmes une frégate du roi employée pour visiter les vaisseaux, afin que nul protestant ne sortît du royaume. Les hommes qu'on trouvait étaient envoyés aux galères, les femmes au couvent. Quelle bénédiction, Seigneur, de ce que nous n'avions pas encore pu aller jusqu'au vaisseau. Nous souffrîmes un peu à la mer par les vents contraires, ayant été 11 jours à la traversée sans oser relâcher en nul port de France. Je ne commençais à respirer que lorsque nous débarquâmes à Eppledore, dans la baie de Bristol, le 10 décembre 1685. Jour heureux pour nous qui avions couru tous les risques pour fuir notre patrie, nos parents, nos amis. Il est certain que nous avons dû tout abandonner et que nous avons perdu tous nos biens, mais nous avons reçu au centuple. Dieu ne nous avait pas conduits dans un pays de sûreté pour nous y faire périr de faim. Il toucha le cœur des habitants d'Eppledore qui vinrent nous chercher et prirent autant de soin du français ou de la française qu'ils avaient dans leur maison que si nous eussions été leurs enfants ou leurs frères, de sorte que nous trouvâmes chez ces étrangers des pères, des mères, des frères et des sœurs. Ô Dieu, que tes yeux soient toujours ouverts sur cette famille, que tu aies aussi en eux une famille où tu prennes plaisir à établir ta demeure constante jusqu'à la fin du monde. Amen.
Naïma Germani, vous retrouvez là quelque chose qui est topique, représentatif du destin de beaucoup de ces réfugiés protestants chassés de France par la révocation de l'édit de Nantes dont nous parlons ce matin.
Oui, absolument. On retrouve exactement ce genre de récit, par exemple chez Jean Migaud, qui est un maître d'école protestant dont les mémoires ont été très bien rééditées par Yves Krummenacker, qui raconte la même chose, qui lui fait plusieurs tentatives de départ pour La Rochelle, finit par trouver une chaloupe, arrive pour... Parce que l'idée, c'est de trouver des passeurs qui vous amènent vers un bateau hollandais ou anglais et qui ensuite vous amènent vers le pays d'accueil. Donc là, en l'occurrence, c'est l'Angleterre. On retrouve d'ailleurs une forme de résonance avec ces traversées difficiles, longues, périlleuses que vivent les réfugiés syriens aujourd'hui. Les récits font souvent état de voyageurs qui arrivent dans un état moitié malade, transis de froid, dans les pays d'accueil. Mais l'accueil ici, en l'occurrence, pour Jacques Fontaine, est plutôt positif et plutôt chaleureux, et qu'il est accueilli comme un frère, hein, dit-il, par des corréligionnaires. Alors cet accueil chaleureux, il est assez représentatif des pays de refuge. Alors l'Angleterre, ici, est depuis fort longtemps un pays de refuge, depuis le XVIe siècle. Dès le règne d'Élisabeth Ière, on a l'habitude d'accueillir des protestants wallons, des protestants français, surtout après la Saint-Barthélemy. Il y a donc déjà une communauté française et wallonne très active, donc des églises francophones, à Londres et dans le sud de l'Angleterre, qui organisent de manière très dynamique l'accueil de leurs corréligionnaires français. Donc il y a déjà des structures, une organisation matérielle, des collectes d'argent qui sont faites et qui permettent effectivement à ces huguenots français de trouver tout de suite ce qu'ils appellent des familles, en tout cas des groupes, des communautés qui leur trouvent un logement, un travail, une paroisse pour redémarrer une nouvelle vie.
avec pourtant une différence entre l'Église anglicane et les calvinistes venus de France.
Oui, alors il y a une tension entre l'Église anglicane et les calvinistes, l'Église wallonne, parce que évidemment les rois d'Angleterre successifs tentent de faire adopter aux églises françaises huguenotes le rite anglican. Alors certaines s'y conforment, d'autres s'y refusent. Donc il y aura tout au long du XVIIe, XVIIIe siècle cette tension entre conformistes et non-conformistes. Mais globalement, l'Angleterre reste un pays de tolérance et d'accueil d'une pluralité religieuse qui est saluée d'ailleurs par les réfugiés qui s'y trouvent.
Bien que à l'époque ce soit encore un roi catholique pour peu de temps, Jacques II, oui, qui soit sur le trône.
Oui, tout à fait. Mais alors Jacques II, tout catholique qu'il est et tout allié de Louis XIV qu'il est, n'hésite pas, après la révocation, la révocation de l'édit de Nantes en 1680, quand commencent les persécutions, à offrir des lettres de naturalisation aux huguenots français qui souhaitent arriver en Angleterre. Il fait quand même preuve d'une certaine ouverture tout à fait remarquable. Ouverture que Guillaume III d'Orange reprend, bien sûr, par la suite.
Avec le risque de mécontenter, évidemment, Louis XIV, mais oui, les oppositions diplomatiques l'emportent sur les solidarités des trônes.
Oui, oui, oui.
Ou les solidarités religieuses d'un catholique à l'autre.
Oui, tout à fait.
D'autres pays méritent d'être considérés. Et d'abord la Suisse. Après, nous viendrons l'Allemagne, bien sûr, en pensant à Angela Merkel. Mais d'abord la Suisse. Quelle est la spécificité de la Suisse, qui sert souvent de lieu de passage, d'ailleurs. Après, il ne faut pas croire, vous le disiez tout à l'heure, que, comme aujourd'hui avec les Syriens, les exilés réformés, les exilés protestants s'arrêtent forcément dans le premier lieu de leur arrivée.
Oui, la Suisse est d'abord un lieu de passage. On estime qu'il n'y aurait que 30 000 protestants huguenots français, donc qui se seraient arrêtés, qui auraient pris racine en Suisse. La plupart ne font que passer. La Suisse est véritablement submergée, puisque ce sont tous les protestants, grosso modo, du sud de la France, hein, du Midi, du Dauphiné, qui passent vers la Suisse. Hein, ceux du Nord vont plutôt vers l'Angleterre et la Hollande. Et donc, c'est la Suisse, à l'époque, est assez impécunieuse, en tout cas, n'a pas exactement le même niveau de vie qu'aujourd'hui. Et elle se trouve assez rapidement débordée.
28 000 exilés qui arrivent à Genève, dans une ville qui a 20 000 habitants.
Oui, en octobre 1685. Et il y a près de 1000 personnes, nous dit-on, par jour, qui arrivent pendant ces semaines. Alors après, évidemment, les flux diminuent et assez rapidement, Genève et ensuite Berne, enfin les grandes villes suisses, s'organisent pour se répartir ces flux de protestants qui arrivent parfois dans un état misérable, et ils opèrent une forme de tri, si je puis dire. D'abord, ils examinent leurs dossiers, ils les enregistrent, ils tiennent des registres, donc il y a des formes de contrôle qui se mettent en place, où on inscrit les noms et les professions de chacun. On retient ceux qui peuvent être intéressants, des artisans spécialisés, les personnes aussi les plus fortunées qui peuvent rester en Suisse. Mais les autres sont envoyés plutôt vers l'Allemagne, qui est le véritable pays d'accueil du refuge huguenot.
On recueille un certain nombre de très très pauvres, oui, par compassion, par charité, et oui, des gens qui sont plutôt en haut de l'échelle sociale parce qu'ils peuvent apporter, en tout cas on le pense, une prospérité. Dans l'intervalle, il y a déjà en Suisse comme ailleurs une méfiance du peuple contre le risque de concurrence. C'est une donnée qui prospère encore aujourd'hui.
Oui, oui, et même les pasteurs ne sont pas toujours, curieusement, des personnes désirables. Certains pasteurs espèrent trouver un poste et certains obtiennent une lettre de naturalisation, mais malgré cela, donc ils ont la nationalité, même si ce terme est un petit peu anachronique, suisse. Et on a des cas de pasteurs qui se plaignent parce qu'ils ne trouvent pas de poste simplement parce qu'ils sont considérés comme étrangers et les pasteurs suisses refusent de les embaucher. Donc il y a effectivement toute une zone grise, hein, de personnes qui, peut-être d'ouvriers non qualifiés, qui ne trouvent pas de place, qui ne trouvent pas de travail et qui sont donc renvoyés vers d'autres pays.
Arrêtons-nous un instant en Hollande, dans les Pays-Bas, qu'on a appelé la grande arche des fugitifs, et qui écrit dans ces années 1680 et 1715 un des plus riches chapitres de l'histoire des protestants français.
Oui, la Hollande est un lieu absolument fondamental pour l'accueil des réfugiés, et pas simplement des réfugiés huguenots, hein, mais bien sûr également des réfugiés juifs, on le sait, enfin des exilés de nombreuses sectes, comme on les appelle à l'époque. Donc les Hollandais, c'est-à-dire précisément les sept provinces unies, qui sont donc protestantes, d'emblée, dès le XVIe siècle là encore, plutôt à la fin du XVIe siècle et surtout au XVIIe siècle, se font véritablement le lieu d'accueil des Huguenots.
Et je ne cache pas que, en vous posant cette question, je songe au scrutin qui a eu lieu il y a quelques jours et où la Hollande, les Pays-Bas, après avoir inquiété, a finalement tranché contre le populisme et contre la haine ou la peur de l'arrivée d'étrangers.
Oui, il y a une ambivalence qui est certaine, puisque l'histoire des Pays-Bas est quand même fondée sur une ouverture. Amsterdam, Rotterdam sont les hauts lieux de refuge, donc huguenots, mais pas simplement. Hein. On y trouve des Sauciniens, des personnes, ou des anabaptistes, qui sont normalement persécutés dans tous les autres pays. Et là, en l'occurrence, on trouve tout de suite, dès 1681, une sorte d'enthousiasme dans une collecte dans toutes les grandes villes, comme Leyde ou... Rotterdam, Amsterdam, une collecte considérable en faveur des réfugiés français qui arrivent. On leur offre très rapidement des lettres de naturalité, donc, ou des droits de bourgeoisie.
Les pasteurs sont pensionnés.
On offre également aux ouvriers la possibilité d'entrer dans des corporations sans payer de taxes. Donc il y a une grande libéralité dans l'accueil des huguenots français, avec bien sûr derrière l'idée que la Hollande pourrait tirer un bénéfice certain, bénéfice économique, de ces artisans qualifiés qui viennent avec cette réputation de l'économie du luxe française, qui est vraiment tout à fait dynamique et très prisée dans toute l'Europe. Donc il y a une volonté de charité, mais aussi une volonté de tirer un bénéfice économique de ces migrants français qui arrivent.
On ne parle pas encore de quotas comme aujourd'hui, mais on voit bien que certaines attitudes à l'égard de l'arrivée des Syriens peuvent être conformes à ce qui s'est passé à l'époque, c'est-à-dire l'idée qu'on accueillera volontiers ceux qui vont apporter beaucoup au fonctionnement de la vie collective, la vie économique, aussi la vie culturelle d'ailleurs.
Oui, parce que le refuge hollandais est aussi un haut lieu, une sorte de laboratoire intellectuel de nombreux pasteurs, théologiens, penseurs, je pense à Pierre Bayle, à Pierre Jurieu par exemple, se réfugient à Rotterdam et produisent un grand nombre d'ouvrages. Ils tiennent des gazettes également qui sont diffusées également en France.
En français naturellement.
Et en français. Et qui apportent un grand dynamisme intellectuel à la Hollande à ce moment-là. Et effectivement, pour revenir à cette question des bons et des mauvais réfugiés, on a aussi dans tous ces pays d'Europe, on le verra aussi pour l'Allemagne, mais aussi en Hollande et en Suisse également, une volonté de faire des choix et de retirer ou d'expulser les indésirables. Donc il y a de bons et de mauvais réfugiés. Et bon, les critères sont bien sûr confessionnels, on vérifie qu'ils sont bel et bien protestants, mais les autres critères sont aussi économiques et professionnels.
L'aspect intellectuel est important, comme il le sera d'ailleurs en Allemagne avec Frédéric, nous allons le voir dans un moment. Il faut dire qu'il n'y a pas de droit d'auteur à l'époque, donc on peut reprendre tous les textes sans payer quoi que ce soit à leurs auteurs et ensuite réintroduire, notamment en France, de façon clandestine, des écrits éventuellement jugés comme subversifs. Et c'est là que la royauté reçoit en plein visage, par un effet de boomerang, les inconvénients du choix qu'elle a fait.
Oui, il y a un commerce des livres. Alors, beaucoup de protestants travaillaient dans l'imprimerie et ils retrouvent un travail, notamment en Hollande, en tant qu'imprimeur ou journaliste. Journaliste, le terme est un tout petit peu trop contemporain, mais c'est l'équivalent, dès tout début du journalisme qui s'installe au XVIIe siècle et surtout au XVIIIe siècle en Hollande. Et c'est cette communauté d'intellectuels, de savants français propose un certain nombre de réflexions, notamment sur la tolérance qu'ils sont en train de vivre dans leur pays d'accueil et qui leur permet de diffuser ces idées par-delà les frontières, effectivement, sous le manteau, vers la France. Et ces ouvrages sont tout à fait reçus en France et sont lus, évidemment.
Au bénéfice aussi, bien sûr, du pays d'accueil, la Hollande, quant à son rayonnement intellectuel, par conséquent, à son rayonnement économique, c'est le siècle d'or.
Oui, c'est la fin, c'est néanmoins la fin du siècle d'or. Le siècle d'or s'achève un petit peu à la fin du XVIIe siècle avec une crise économique qui permet d'ailleurs de modérer l'idée que l'arrivée des Huguenots français aurait apporté un boom économique. En fait, les Huguenots arrivent dans une phase plutôt de récession et ils ne font pas profiter véritablement la Hollande de leur savoir-faire, si ce n'est de leur savoir-faire technique, bien sûr. Mais en tout cas, ils apportent un savoir-faire intellectuel qui est indéniable.
C'est une question d'ailleurs intéressante d'un point de vue historique, celle de savoir si le départ des protestants a vraiment beaucoup appauvri la France, comme cela a été longtemps écrit, et a éventuellement beaucoup enrichi les pays d'accueil, dont l'intérêt par conséquent aurait rejoint la générosité.
Oui, ça c'est un double mythe, ce mythe de l'appauvrissement de la France à cause du départ des Huguenots et de l'enrichissement des pays d'accueil grâce à ces arrivées de migrants Huguenots. Un mythe qui a été forgé dès le XVIIIe siècle, dès la fin du XVIIIe siècle, notamment par Arthur Young, donc cet agronome anglais qui voyage en France à la fin du XVIIIe siècle, à la veille de la Révolution française, et qui amène cette idée que ces protestants ont été véritablement une perte d'un point de vue financier, technologique, pour la France.
La question se pose particulièrement dans le cas de la Prusse et dans le cas de l'Allemagne, et plus précisément de la Prusse, qui a accueilli avec Frédéric le Grand à bras ouverts nos émigrés protestants. Alors qu'en est-il ? Est-ce qu'on peut juger que la Prusse s'est enrichie de ce fait ou...
Alors, la Prusse a tout de même gagné quelque chose. D'abord, elle n'a pas, le Brandenburg prusse n'a gagné que, parce que c'est déjà pas mal, 20 000 Huguenots qui, semble-t-il, se sont installés définitivement, dont 4 000 à Berlin, au tout début du XVIIIe siècle. Alors, cette arrivée des Huguenots a tout de même été... un apport important, d'une part, d'un point de vue d'abord confessionnel, parce que Frédéric Guillaume est un roi, il est roi de Prusse, il est aussi grand électeur de Brandebourg, qui est calviniste dans un pays majoritairement luthérien. Donc il espère avoir autour de lui une communauté qui le soutient. Alors cette communauté apporte effectivement son savoir-faire dans l'artisanat notamment. Il les encourage d'ailleurs à implanter des manufactures, leur offre des taux d'intérêt des prêts extrêmement intéressants. Donc il y a effectivement un apport économique, mais qui reste relativement modeste. On n'en assiste pas à un véritable essor de la Prusse grâce aux Huguenots, parce qu'ils ne sont pas en nombre suffisant. Ils reprennent néanmoins des terres qui ont été abandonnées, en formant des colonies abandonnées du fait de la guerre de 30 ans. De nombreux territoires, d'ailleurs, ont perdu en termes démographiques. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'Allemagne fait appel aux Huguenots français. C'est parce que de très nombreux territoires ont perdu 40 à 60% de leur population.
C'est une guerre atroce, la guerre de 30 ans, qui avait ravagé les pays concernés.
C'est une saignée. C'est une guerre très longue, extrêmement violente, où il y a effectivement une déperdition de population considérable, sans compter des déplacements de population fort nombreux à l'intérieur de l'Allemagne et aux frontières de l'Allemagne. On parle des Huguenots, mais il faut rappeler que ce problème est européen. La Saxe reçoit par exemple 50 000 réfugiés de Bohême. Le sud de l'Allemagne reçoit pendant la guerre de 30 ans des réfugiés autrichiens protestants. Donc il y a des flux migratoires qui brassent l'Allemagne tout au long du XVIIe siècle, et les Huguenots ne sont que la phase presque finale de ces mouvements migratoires.
Alors, quelle est la part d'intérêt et quelle est la part morale? Je pense à l'attitude d'Angela Merkel, forcément récemment, où elle parlait de Schuld. C'est un mot, n'est-ce pas, en allemand, qui a une double signification et qu'il faut traduire de deux façons en français.
Oui, à la fois donc dette matérielle et en même temps effectivement dette morale, avec en arrière-plan cette idée effectivement de culpabilité. Et pour le XVIIe siècle, pour l'accueil des Huguenots français, il n'y a pas véritablement de Schuld, mais plutôt un sentiment d'une part de compassion ou de pitié, de volonté de donner une aide charitable à des frères, comme le disait Jacques Fontaine, des frères de religion. Il y a évidemment derrière une volonté d'améliorer la situation des principautés, de leur apporter un certain dynamisme démographique et économique. Mais les Principautés allemandes, les villes mettent en avant dans leur discours cet aspect moral, qui est très important. Dans les discours des pasteurs, dans les discours des princes, dans les lettres ou les suppliques des réfugiés aux princes, il y a véritablement une volonté de montrer que l'on est agi par un sentiment chrétien d'aide et de solidarité.
Oui, on peut entendre ce que dit le grand électeur, Frédéric. Quelques semaines après la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV, nous ne pouvions moins faire que d'accueillir avec bonté et bienveillance ceux qui, sans avoir commis aucune faute, mais pour obéir à la conscience qu'aucune puissance humaine ne peut forcer, se sont échappés et enfuis à leur plus grand dommage et en abandonnant tout ce qu'il y a au monde de plus cher aux hommes. Nous considérons que notre foi et notre conscience nous en faisaient un devoir et qu'il nous en faudra rendre compte à Dieu. On aurait presque pu placer ces paroles dans la bouche de la chancelière allemande, non ?
Oui, hein, Angela Merkel, elle-même fille de pasteur, est pétrie malgré tout de cette culture, de ce passé et de cette volonté de faire acte malgré tout hein, de charité. Hein, de l'idée de tendre la main à des gens persécutés, qui ont effectivement tout perdu, qui ont tout laissé derrière eux, relève d'un devoir moral hein, dans le discours de la chancelière. Alors bien sûr, on a eu de cesse en France de souligner que l'Allemagne avait besoin en termes de démographie et en termes de marché du travail, de main-d'œuvre. Mais il y a, je pense, quelque chose d'absolument sincère dans le discours de la chancelière et qui est un discours qui était très discordant par rapport à l'ensemble des pays d'Europe. Et en effet, le discours de grands électeurs du Brandebourg, Prusse, fonde en quelque sorte cette tradition de l'accueil des réfugiés, bon, qui sont des réfugiés protestants, mais et qui sont de la même confession que le prince. Néanmoins, dans d'autres territoires allemands, des princes calvinistes acceptent d'accueillir, par exemple, des réfugiés luthériens. Donc, il y a malgré tout un laboratoire de tolérance qui se joue autour de cette idée d'accueil charitable.
Mais avec le recul, est-ce qu'on peut penser que la Prusse en a tiré un grand bénéfice et pendant que la France en était appauvrie? Au moment de la guerre de 40, on a beaucoup observé les noms d'un certain nombre d'officiers et de généraux, Varlimont et d'autres, allemand de Mézières, plus récemment le ministre de l'Intérieur, avec qui Bernard Cazeneuve s'entendait si bien. Est-ce que l'on peut dire que ça a été un vrai enrichissement ou que c'est simplement symbolique ?
Non, il me semble que c'est malgré tout un enrichissement. D'abord parce que beaucoup ont effectivement apporté leur savoir-faire, leur technique en Allemagne, mais surtout, alors l'enrichissement, moi je pense que l'enrichissement peut être symbolique, et c'est pas parce qu'il est symbolique qu'il en perd de sa force, bien au contraire, puisque le fait d'avoir cette histoire huguenote, bon, qui a été ensuite portée en blason au XIXe siècle pour en faire une histoire très glorieuse, fonde, et surtout après la Seconde Guerre mondiale, un contrepoint très important dans l'histoire allemande, offre un autre éclairage de l'histoire allemande. Une histoire allemande du côté des Lumières, du côté de la tolérance, de la charité, qui vient contrebalancer, bien évidemment, une histoire beaucoup plus sombre, qui est celle du milieu du XXe siècle. Donc, cet apport est très important. Et d'ailleurs, je trouve que c'est intéressant que vous évoquiez de Mézières. On pouvait aussi parler d'Oscar Lafontaine, qui a été un des ministres du gouvernement de Schröder.
Des Linke.
Oui, et qui a été présenté par la presse comme étant un descendant des Huguenots. Ce n'est pas un détail qui est laissé de côté.
C'est vrai.
Oui, c'est dans les biographies qui sont sorties au moment de la constitution du gouvernement, il y avait à chaque fois la mention. Il y a donc un prestige, malgré tout, encore aujourd'hui, d'être un descendant des Huguenots. Donc, de venir de ce groupe de personnes qui a résisté contre l'oppression et qui a effectivement tout abandonné pour la foi. C'est un phénomène qui s'ancre dès le XVIIe siècle dans les discours des pasteurs, qui montrent, qui désignent les Huguenots, les migrants religieux, comme un petit peu des super chrétiens, des chrétiens qui constituent des modèles pour les autres, puisque eux, certes, n'ont pas affronté le martyre, mais ont préféré partir plutôt que de renoncer à leur foi. Donc, voilà, ce sont malgré tout des personnages qui restent très marquants dans l'histoire allemande.
Il y a eu encore des groupes humains qui sont héritiers des colonies de l'époque où en Allemagne, en Prusse, on rassemblait les émigrés qui ont, je ne sais pas si c'est uniquement du folklore, le goût de perpétuer quelque chose. J'ai exhumé pour vous l'archive que voici, qui est l'interview d'un vieil instituteur qui descend des Huguenots français, qui est installé dans les environs de Francfort et qui s'exprime de la sorte dans Interactualité le 31 janvier 1970.
En ce temps, il s'y trouvait 150 familles, en tout 700 âmes. L'âge d'industrie commença au milieu du 19e siècle pour maintenir la langue française, les mœurs, la culture et la foi réformée. Frédéric et ses successeurs avaient ordonné de ne plus recevoir aucun Allemand comme membre de la commune. Et vraiment, dans le premier siècle de l'existence de la colonie, seulement 12 Allemands reçurent le droit de demeurer ici. Frédéric IV défendit aux habitants de marier leurs filles avec des Allemands. Le temps huguenot est passé, seulement les noms des vieilles familles sont encore en vie. Achard, Berthalot, Foucard, Garnier, Boutemi, Lebeau, Rousselet, Roux. Au cimetière, on peut voir les tombes des ancêtres.
Petit oiseau, t'envole, petit oiseau, reviens, reviens sur mon épaule pour picoter des grains. Quand trois poules vont au champ, la première va par devant, la deuxième suit la première, la troisième suit la deuxième.
C'est touchant, Naïma Germani, mais au-delà.
Alors, c'est intéressant parce que ce témoignage donc, du XXe siècle montre qu'il y a eu une transmission très longue d'une mémoire, alors par des chansons, par la langue française qui demeure fort bien parlée ici, donc d'une mémoire protestante. Et je trouve que cela contrevient à l'idée peut-être un peu facile, ou plutôt d'une assimilation ou d'une intégration des Huguenots dans la société allemande. Alors, pour ma part, je conteste un petit peu ces termes d'assimilation qui sont des termes de sociologues américains qui supposeraient une disparition complète des nouveaux arrivants dans une société d'accueil en faisant absolument disparaître toutes leurs particularités.
Vous préférez intégration ?
Oui, alors intégration qui est un terme intéressant, mais qui tend à plus à exclure justement qu'à intégrer, à désigner un groupe. À partir de quand est-on intégré ? La question ne se pose pas véritablement à l'époque moderne dans l'Ancien Régime. On parlerait plutôt, avec l'historienne Simona Cerutti, de lien d'appartenance. Comment crée-t-on une appartenance à une communauté ? Et très souvent, l'appartenance, elle se fait par le travail, par l'entrée, par exemple, dans une corporation, par la propriété, l'acquisition de biens, et par la participation, par exemple, aux fêtes collectives, que ce soit les grandes fêtes religieuses ou autres. Donc, on ne peut pas mesurer à l'époque moderne, dans l'Ancien Régime, ce qu'on appellerait, nous, une intégration. Aujourd'hui, nous avons, et encore ces critères qui les fixent, nous ne le savons pas, quels seraient les critères parfaits d'une intégration. C'est difficile à fixer. Et à l'époque moderne, il n'y a pas véritablement de pensée comme ça préalable de se réintégrer celui qui parlerait parfaitement l'allemand, aurait donné des prénoms allemands à ses enfants, etc. Au contraire, on trouve des gens fort bien intégrés, mais qui continuent à écrire, par exemple, en français pour leur contrat de travail ou pour leur correspondance, et qui gardent cette longue mémoire pour leur famille dans le domaine privé.
Je pense qu'il faut que nous terminions notre conversation sur le refuge huguenot en évoquant le rôle que cet événement majeur de notre histoire occidentale, européenne, peut avoir eu dans le développement du droit. Je veux dire, droit pénal, droit des gens, Grotius, fameux apôtre du droit des gens. Il faut rappeler que droit des gens, ça ne veut pas dire droit des personnes, mais c'est au sens latin, j'insiste, le droit des nations, c'est le droit international.
Oui. Oui.
Comment situeriez-vous l'épisode du refuge dans cette évolution de la conception des devoirs internationaux, des droits religieux, de droits pénal, peut-être davantage.
Oui, le refuge joue un rôle fondamental. C'est une césure historique dans ce qu'on appelle le droit d'asile. Le droit d'asile, jusqu'au XVIIe siècle, et encore durant le XVIIe siècle, est un droit très ancien, antique et médiéval, qui est justement un droit pénal, qui consiste à accorder pour un temps l'immunité à un criminel, un voleur, un débiteur impécunieux, voire un meurtrier. Donc ce droit d'asile n'a rien à voir avec des persécutions ou des persécutés qu'il faudrait protéger.
Donc évolution passionnante.
Oui, tout à fait. Or, le droit d'asile, progressivement, devient un droit qu'on accorde à des personnes qui sont chassées de chez eux pour, comme on dit, la cause de la religion ou pour des raisons politiques et devient un droit de protection de la part des États d'accueil. Donc il y a là un renversement extrêmement intéressant qui se joue au XVIIe siècle et dont l'un des auteurs et un des promoteurs est effectivement Hugo Grotius, lui-même réfugié, qui écrit en 1725 du droit de la guerre et de la paix et qui explique que tous les externis, tous les étrangers ont droit à une habitation perpétuelle, comme il dit, durable, dans un pays, s'ils sont chassés pour une raison ou pour une autre. Donc il y a une séparation entre l'hérésie et le crime. On n'est plus criminel parce qu'on est hérétique, on est un pauvre chrétien chassé qui mérite un accueil et des droits dans le pays d'accueil. Donc là, la césure, elle se joue à ce moment-là, et ce sont les pays de refuge qui produisent cette réflexion, mais ce sont aussi les Huguenots, par leur demande de droit, par leur demande d'accueil, leur demande de soutien, qui, à mon sens, permettent à cette réflexion de se déployer. Ce sont eux aussi qui participent à la construction de cette réflexion juridique sur le droit d'asile, qui finit par se développer au XVIIIe siècle avec des grands juristes comme de Vatel par exemple, et qui aboutissent à cette inscription dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, article 120, que tout peuple chassé ou banni de son pays pour des causes soit politiques, soit religieuses, a droit à la protection de la nation française.
C'est important de le rappeler, ne serait-ce que pour ne pas réduire la Convention à la terreur, comme on tend parfois à le faire. C'est aussi un moment d'expression de magnifiques intentions qui ne sont pas toujours réalisées, mais qui, dans le cas qui nous occupe, sont voués à briller longtemps.
Oui, il y a dans le refuge, à mon sens, un laboratoire de réflexion politico-juridique, d'une part sur effectivement la question de l'asile, des droits des personnes, et plus généralement sur la question de la tolérance, puisque ces personnes ont vécu dans leur chair les politiques d'intolérance, eh bien ce sont eux qui, depuis leur lieu d'asile, produisent et font passer, comme on l'a vu sous le manteau, leurs réflexions. Et je pense notamment à Pierre Bègle, qui est le grand penseur de la tolérance, qui s'est réfugié à Rotterdam, et qui, dans ses commentaires philosophiques et dans d'autres écrits, propose une véritable réflexion novatrice sur la tolérance, en disant que la tolérance vaut beaucoup mieux que les massacres. Il vaut mieux renoncer à l'idée d'une seule vérité plutôt que de produire des massacres en masse. Et que, ma foi, la tolérance devrait être un principe non pas accordé à un groupe, ce n'est pas un privilège qu'on doit accorder à un groupe, mais c'est un droit qui devrait être universel, accordé à tout individu, et donc qui devrait être, de ce point de vue-là, incontestable et permettrait à chacun de vivre en paix, certes au milieu, comme il dit, des bigarrures des sectes, mais mieux vaut la bigarrure des sectes, dit-il, que les massacres.
On ne pourrait pas comprendre le comportement des philosophes des Lumières à cet égard sans le refuge. Et c'est clair dans le fameux traité de la tolérance de Voltaire, qui est publié en 1763 et dont voici, ce sera notre dernière archive, dont voici un extrait lu par Charles Boyer, oui Charles Boyer qui revient des États-Unis d'Amérique en 1944.
Que toutes ces petites nuances qui distinguent les atomes appelés hommes ne soient pas des signaux de haine et de persécution. Que ceux qui allument des cierges en plein midi pour te célébrer supportent ceux qui se contentent de la lumière de ton soleil. Que ceux qui couvrent leur robe d'une toile blanche pour dire qu'il faut aimer ne détestent pas ceux qui disent la même chose sous un manteau de laine noire. Qu'il soit égal de t'adorer dans un jargon formé d'une ancienne langue ou dans un jargon plus nouveau. Puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères, qu'ils aient en horreur la tyrannie exercée sur les âmes, comme ils ont en exécration le brigandage qui ravit par la force le fruit du travail et de l'industrie paisible. Si les fléaux de la guerre sont inévitables, ne nous haïssons pas. Ne nous déchirons pas les uns les autres dans le sein de la paix. Et employons l'instant de notre existence à bénir également, en mille langages divers, depuis Siam jusqu'à la Californie, la bonté qui nous a donné cet instant.
C'était Voltaire. Voltaire qui, à l'époque, disait « La plaie de la révocation saigne encore ».
Oui, il écrivait, en pensant sans doute aux nombreuses affaires dans lesquelles il a été impliqué et qu'il a défendu avec ardeur, hein, l'affaire Callas, l'affaire Sirven par exemple, qui sont en fait la prolongation de cette intolérance à l'égard des protestants, deux protestants qu'on accuse de crimes divers, sans doute et très probablement à tort. Donc il y a effectivement chez Voltaire un héritage qui est celui du refuge et par exemple de la pensée de Bayle, c'est incontestable, qui permet aux Lumières de développer toute cette réflexion sur la nécessaire tolérance qui doit aller bien au-delà des différences religieuses.
Et si on revient pour finir aux Syriens, Naïma Germani, qui ont été à l'origine de notre émission. Les aspects religieux comptent, mais sont peut-être moins importants que d'autres aspects de ce drame des Syriens, sous la lumière de l'histoire du refuge.
Oui, la question religieuse qui est parfois mise en avant, il serait plus difficile de les accueillir parce qu'ils n'auraient pas la même religion que nous. Alors bon, déjà c'est assez curieux parce que nous sommes dans une Europe globalement athée, enfin peu de gens confessent leur foi publiquement. En tout cas, la question en tout cas du refuge montre bien que ce ne sont pas uniquement les questions de religion qui fondent au fond la question de la tolérance, puisqu'au contraire, le refuge aboutit à cette idée que, au fond, peu importe que l'on appartienne, pour reprendre les termes de Bayle, à tel ou tel siècle, il fait même des comparaisons avec des peuples d'Amérique. On pourrait faire venir des gens, comme il dit, des sauvages, n'est-ce pas, d'Amérique. Eux aussi auraient le droit à une forme de tolérance. Donc, peu importe, au fond, l'appartenance religieuse, la question est comment donner une place, finalement, à des gens qui arrivent, non pas par gaieté de cœur, mais parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de quitter leur pays.
C'est le fait simple de la persécution chez soi. Merci beaucoup Naïma Germani. Nous avons utilisé pour préparer cette émission le livre déjà ancien mais toujours précieux de Michel Magdelaine et Rudolf von Taden, excellent historien prussien que nous avons malheureusement perdu récemment. Un livre qui s'appelle Le Refuge Huguenot, paru chez Armand Collin en 1985. Je cite aussi le livre de Myriam Yardeni, Le Refuge Protestant, qui remonte à la même année, 1985, en attendant ce que vous allez nous apporter en synthèse. Les livres sont déjà anciens. L'ouvrage de Patrick Cabanel est fondamental, l'histoire des protestants en France, 16e, 21e siècle, paru chez Fayard il y a 4 ans, en 2012. Vous-même, vous avez donné aux presses universitaires de Rennes, cette excellente collection, en 2009, un livre qui s'appelle « Le prince et son portrait ». De quoi s'agit-il ?
Il s'agit des représentations du pouvoir et comment celles-ci changent sous l'effet du protestantisme. Parce que le protestantisme change la conception du pouvoir politique et il change les représentations du pouvoir politique dans l'Allemagne du XVIe siècle.
Je rappelle, s'ils en ont besoin, à nos auditeurs, qu'ils peuvent trouver une bibliographie complète, plus complète, sur notre site avec les références des documents que nous avons utilisés et qu'ils pourront écouter, réécouter et podcaster cette émission. Je redis que c'est beaucoup plus facile de podcaster cette émission que parfois la timidité des uns et des autres ne peut le craindre. Samedi prochain, nous serons en direct du Salon du Livre et nous parlerons du rayonnement de la francophonie, du français dans le monde, les flux et les reflux, avec cet excellent connaisseur de l'histoire de notre langue et de bien davantage qu'est Bernard Cerchilini. Eh bien, c'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Guillaume Cotte et Nathalie Lempereur, précieux concours, et réalisée pour la première fois par Anne Kobilac, que je salue, avec à la prise de son Dali Yara, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Clary Monac. Et dans quelques instants, je vais passer le relais à Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.